Bonjour à tous. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a atterri cette nuit à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump.
Donald Trump, qui a déclaré avoir suspendu l'élargissement des frappes américaines contre l'Iran afin de laisser une chance aux négociations.
Le prochain cycle de discussions entre Israël et le Liban se tiendra sous médiation américaine à Rome du 4 au 6 août prochain.
Et enfin, un jeune homme de 18 ans avait prévu de perpétrer un attentat lors de la marche des fiertés en 2024 à Louvain, en Belgique. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a atterri cette nuit à Washington.
Oui, il doit rencontrer le président Donald Trump ce soir à 17h belge, 18h israélienne. L'Iran devrait être le principal sujet de discussion, mais il devrait aussi parler du cadre trilatéral au Liban et des efforts visant à élargir les accords d'Abraham. À Washington, Benjamin Netanyahou entend convaincre Donald Trump que l'Iran poursuit secrètement le développement de son programme nucléaire malgré les négociations. Benjamin Netanyahou est également à Washington pour assister aux obsèques du sénateur républicain Lindsey Graham, qui était un grand défenseur d'Israël.
Et justement, de nouvelles images issues du documentaire de Lindsey Graham, qui lui est consacré, offrent un aperçu des échanges stratégiques qui ont marqué les relations entre Jérusalem et Washington au cours des trois dernières années.
Le film qui suit le sénateur dans ses activités politiques et diplomatiques dévoile plusieurs conversations privées. L'une des séquences les plus intéressantes a été tournée le 4 mars dernier dans le bureau de Lindsey Graham au Sénat américain. Alors qu'il s'apprête à rejoindre Donald Trump en Floride, le sénateur téléphone à Benjamin Netanyahou pour l'informer de son intention de convaincre le président américain de s'impliquer davantage dans la guerre contre le Hezbollah au Liban. Et le premier ministre israélien lui répond qu'il ne veut pas encourager une telle initiative et qu'il estime qu'à ce stade du conflit, la priorité stratégique d'Israël est de concentrer ses efforts sur l'Iran. Toujours à propos d'Iran, le président américain Donald Trump a déclaré avoir suspendu l'élargissement des frappes américaines contre Téhéran afin de laisser une chance aux négociations.
Tous ceux qui traitent avec l'Iran m'ont demandé de ne pas tirer, a affirmé Donald Trump, ajoutant qu'il pensait que Téhéran souhaitait parvenir à un accord, le tout en avertissant que l'option militaire restait sur la table en cas d'échec des discussions. Dans un entretien accordé à Axios, Donald Trump a indiqué que les pourparlers portent actuellement sur un accord visant à rouvrir le détroit d'Hormuz et à relancer des négociations plus larges sur le programme nucléaire iranien. Interrogé sur le délai qu'il est prêt à accorder à la diplomatie, le président américain a répondu « pas beaucoup de temps, soit cela avance rapidement, soit pas du tout ». Fin de citation. Et puis il a profité d'une accalmie dans les frappes américaines. Oman et l'Iran s'apprêteraient à conclure un accord pour ouvrir le détroit d'Hormuz.
Oui, Oman tient Washington informé, bien que les États-Unis ne participent pas directement aux négociations. Des négociations qui n'ont pas pour objectif de mettre fin définitivement au conflit entre les États-Unis et l'Iran. Mais les médiateurs espèrent qu'un accord temporaire visant à ouvrir le détroit d'Hormuz permettrait d'accélérer les discussions en vue d'un accord plus global et plus concret. Oman, n'est pas encore arrivé à convaincre l'Iran d'un certain nombre de positions, notamment celle de l'application ou non de droits de transit dans le détroit d'Hormuz. Pourtant, les deux pays font état de progrès côté israélien. On rappelle que les négociations ne devraient pas se réduire au détroit d'Hormuz et reviennent notamment sur le site souterrain hautement fortifié de Peacock Mountain. D'après une source israélienne citée par le quotidien américain le New York Post et relayée par Israel National News, les renseignements israéliens indiqueraient que Téhéran installe de nouvelles centrifugeuses sur ce site enfoui à plus de 90 mètres sous la montagne, à proximité du complexe nucléaire de Natanz. Seuls 33% des Américains soutiennent la guerre contre l'Iran. C'est le niveau le plus bas enregistré depuis le début du conflit il y a 5 mois. C'est ce que rapporte un sondage Reuters Ipsos publié hier.
Réalisé entre vendredi et dimanche auprès de 1246 adultes américains, le sondage révèle que 69% des répondants, dont 4 républicains sur 10, jugent que la Maison-Blanche n'a pas suffisamment clarifié les buts de cette campagne militaire contre Téhéran. L'agence Tasnim, proche des gardiens de la révolution islamique, a diffusé une vidéo menaçante visant Melania Trump.
La vidéo prétend dévoiler des informations sur les dispositifs de sécurité qui entourent la première dame ainsi que sur certains de ses déplacements habituels à New York. Elle affirme notamment que son intérêt pour la mode consisterait à une vulnérabilité et évoque les boutiques qu'elle fréquenterait, invitant ses partisans à exploiter ces informations.
Le prochain cycle de discussions entre Israël et le Liban se tiendra sous médiation américaine à Rome du 4 au 6 août prochain.
Oui, un cycle sur lequel on discutera notamment des zones pilotes et de leur élargissement. Nous abordons ces discussions avec une dynamique importante après le lancement réussi de la première zone pilote au sud Liban et la rencontre productive entre le président Joseph Aoun et le président Donald Trump la semaine dernière. C'est ce qu'a déclaré un responsable du département d'État américain. L'expérience acquise dans les premières zones pilotes nous permettra d'améliorer la mise en œuvre et d'étendre le dispositif. C'est clairement dans l'intérêt des deux pays et l'administration Trump est pleinement engagée à assurer son succès, a conclu ce responsable américain.
Tsahal intercepte un drone à la frontière jordanienne. Il s'agit du troisième drone intercepté en moins de 24 heures dans cette zone.
L'engin a été neutralisé avant de pénétrer dans le territoire israélien. Par conséquent, les sirènes n'ont pas été déclenchées en Israël. Hier déjà, deux autres drones avaient été interceptés de la même manière par Israël et encore deux autres du côté de la Jordanie. Selon le communiqué du porte-parole de Tsahal, une enquête est en cours. Le correspondant militaire de la chaîne C14 affirme que ces drones ont été lancés depuis l'Irak sur ordre de l'Iran. Cette information n'a pas encore été confirmée par Tsahal. Des organisations de familles endeuillées et des habitants du pourtour de la bande de Gaza dénoncent l'entrée d'une force internationale dans la bande palestinienne avant le désarmement complet du Hamas. Selon eux, commencer la reconstruction trop tôt donnerait au Hamas le temps de survivre et de se réorganiser.
La Turquie tenterait d'influencer les prochaines élections israéliennes à travers des opérations menées sur les réseaux sociaux.
C'est ce qu'affirment plusieurs hauts responsables de la sécurité israélienne cités par le Jerusalem Post. Selon eux, ces campagnes chercheraient à orienter l'opinion publique, à perturber le débat électoral et surtout à accentuer les fractures au sein de la société israélienne. On ne sait pas encore quelles plateformes, comptes ou organisations sont concernées. Les responsables n'ont pas non plus confirmé. Ces activités étaient directement pilotées par le gouvernement turc. La Turquie rejoint ainsi l'Iran parmi les pays soupçonnés par Israël de vouloir peser sur le scrutin du 27 octobre. Un récent rapport du contrôleur de l'État souligne qu'Israël ne dispose pas d'une stratégie claire ni d'un organisme chargé de coordonner la lutte contre les campagnes étrangères d'influence en ligne. Les autorités redoutent notamment l'utilisation de faux comptes, de contenus anonymes et de l'intelligence artificielle pour diffuser de fausses informations, provoquer la peur et amplifier les divisions de la société israélienne. On est revenu sur ce sujet grave avec Stéphane Zibi à 8h45.
Et cette nouvelle s'inscrit dans un projet encore plus large où la Turquie chercherait à renforcer son influence au Moyen-Orient en s'appuyant sur la cause palestinienne.
C'est la conclusion d'une étude menée par le Centre de Jérusalem pour la politique qui a analysé un ouvrage officiel turc de 758 pages publié par la présidence et intitulé « Notre cause palestinienne ». Selon le chercheur Ben Avrahami qui a étudié ce document, la stratégie turque est comparable à celle de l'Iran, utiliser le soutien aux Palestiniens pour séduire les opinions publiques arabes et musulmanes et accroître le poids régional d'Ankara. Jérusalem occuperait aussi une place centrale dans le projet. Le président Recep Tayyip Erdogan veut restaurer l'influence historique de la Turquie sur la ville, une volonté formulée très clairement dans ce document. Une stratégie qui commence par Gaza. Ankara voudrait jouer un rôle majeur dans l'administration du territoire après la guerre, même si aucun soldat turc n'a finalement été intégré au Conseil de la paix. Le chercheur estime qu'Erdogan tentera de contourner cet obstacle, notamment par l'intermédiaire d'organisations humanitaires. Ben Avrahami affirme aussi que le pouvoir turc préparerait progressivement son opinion publique à une confrontation directe avec Israël. Il rappelle également que des responsables du Hamas sont présents depuis longtemps en Turquie avec l'accord d'Ankara, une situation qui, selon lui, devrait pousser les services israéliens à renforcer leur surveillance et leur capacité de renseignement sur le territoire turc.
Le Likoud a validé hier la demande de Benjamin Netanyahou de 8 places réservées sur sa liste pour les élections législatives de 2026.
Parmi elles, des places entre la 3e et la 30e place, toutes éligibles si l'on en croit les sondages. Le vote a commencé dans une ambiance tendue pour se déterminer par une victoire de Benjamin Netanyahou sur toutes ses demandes. 3400 participants ont voté sur les quelques 4500 membres du secrétariat du Likoud. C'est donc l'un des tests internes les plus significatifs à l'approche des prochaines élections. Les diplomates américains ont quitté la salle alors que leurs homologues français prenaient la parole aujourd'hui aux Nations Unies.
Oui, et ce après que cet allié européen proche de Washington eut critiqué le bilan de l'administration Trump en matière de droits de l'homme. Cette décision surprise prise lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a consacré à l'Ukraine fait suite à l'opposition des États-Unis à l'octroi d'un nouveau mandat de 4 ans au haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Türk. La reconduction de ce dernier vendredi a reçu un soutien massif, notamment de la part de la France. Ce départ des États-Unis reflète non seulement les relations de plus en plus tendues entre le président Trump et son homologue français Emmanuel Macron, mais aussi des tensions plus générales entre les États-Unis et l'Europe. Celles-ci portent notamment sur les doutes quant à l'engagement de Donald Trump envers l'OTAN, les éventuels changements dans le déploiement des troupes américaines en Europe et la volonté de Donald Trump de contrôler le Groenland qui appartient au Danemark, membre de l'OTAN. Donald Trump s'est plaint que les Européens, qui certes n'avaient pas été consultés, n'aient pas aidé les États-Unis pendant la guerre contre l'Iran, qui les concerne aussi. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a tout de même pris l'initiative de renforcer les capacités militaires de l'Europe et de garantir un parapluie nucléaire aux côtés de la Grande-Bretagne.
La rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, a publié un nouveau message sur X concernant des violences présumées de civils israéliens en Judée-Samarie.
La capture d'écran accompagnant sa publication a révélé que l'information provenait du député israélien Ofer Kassif. Dans son message, Francesca Albanese a écrit que des civils israéliens armés prévoyaient de prendre d'assaut la Cisjordanie, je cite, dénonçant des actes qu'elle a qualifiés de crimes et appelant à ce qu'ils cessent. La capture d'écran jointe à sa publication indiquait que le député Ofer Kassif était à l'origine de l'information transmise. Interrogé à ce sujet, ce dernier a confirmé entretenir des échanges réguliers avec la rapporteure de l'ONU et a déclaré la tenir régulièrement informée. Ofer Kassif, élu antisioniste de gauche radicale, appartient au parti communiste arabe Hadash, dont il est le seul élu juif. Il défraye régulièrement la chronique à la Knesset et en dehors par ses déclarations hostiles à Israël et pro-palestinienne. Il a été visé en 2024 par une procédure de destitution qui n'a pas abouti.
En France, le retour de la canicule fait craindre une nouvelle aggravation des incendies en Gironde, où les feux ont déjà ravagé 42 000 hectares et face auxquels Emmanuel Macron a appelé à rester unis pour en venir à bout.
Face à une situation qui reste très imprévisible, la mobilisation reste pleine et entière, particulièrement à la veille d'une journée qui devrait être marquée par une hausse significative des températures et une baisse de l'hygrométrie. C'est ce qu'a déclaré la préfète de la Gironde dans un point de situation hier soir. La Gironde et les Landes passeront en vigilance jaune canicule dès ce midi. Météo France y prévoyant une nouvelle vague de chaleur avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40 degrés demain et des vents un peu moins forts mais plus secs. On a la situation la plus dure qu'on ait jamais mesurée et la plus dure depuis la Seconde Guerre mondiale, a affirmé Emmanuel Macron depuis la Gironde, où il a précisé que plus de 160 000 hectares ont déjà été brûlés.
Toujours en France, 12 Sefer Torah ont été volés ce week-end dans la synagogue de Levallois en région parisienne.
Les fidèles auraient découvert le vol alors qu'ils s'apprêtaient à célébrer une bar mitzvah. C'était hier matin, la police a immédiatement été prévenue. Une enquête a été lancée pour identifier les auteurs de ce vol. Les voleurs seraient rentrés par effraction dans les locaux qui sont protégés par des caméras et des systèmes de surveillance importants. Selon une source interrogée par l'AFP, les rouleaux aurait une valeur comprise entre 80 et 100 000 euros. C'est un traumatisme spirituel pour toute la communauté juive de France et du monde entier. C'est la Torah qui a été visée. Aucun bien n'a été détérioré, aucun autre objet n'a été dérobé. C'est indigné Philippe Cohen, président de l'association culturelle et cultuelle israélite de Levallois, dans une vidéo diffusée sur Facebook. Et on termine avec la Belgique où un jeune homme de 18 ans avait prévu de perpétrer un attentat lors de la marche des fiertés en 2024 à Louvain. C'est ce qu'écrit ce matin Atlas News. Il comparaîtra en novembre devant la justice aux côtés d'un autre prévenu. D'après le quotidien néerlandophone, la police a repéré le jeune homme lorsqu'il a tenté de se procurer des armes via le service de messagerie instantanée Telegram. Il a alors été mis en contact avec un agent sous couverture. D'après l'enquête, le suspect radicalisé depuis un certain temps est un complice, espérait faire le plus de victimes possible. Après plusieurs mois de détention provisoire, le jeune homme a été libéré, d'abord sous bracelet électronique. Âgé aujourd'hui de 20 ans, il doit se plier à une série de conditions.